Radio Libertaire 89.4. Oui, Radio Libertaire.
Salut à toutes et à tous.
Nous partager, inventer des jeux anarchistes.
Non, pas tout de suite. Oh là là. Radio Libertaire, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Fury Club. Nous sommes le mercredi temps, comme je vous le disais, il y a quelques instants. Avant de retrouver la suite de l'entretien accordé par Franz Vaillant, qu'on a réalisé, Franz et moi, il y a quelques temps de cela, je voulais d'abord vous dire bonjour. Je voulais également vous rappeler que Franz a écrit un très joli bouquin qui s'appelle « Léo Ferré, droit de réponse », qui est paru aux éditions du Petit Véhicule et que vivement je vous recommande. C'est un livre dans lequel il répond aux critiques, souvent lamentables, mais en fait quasiment tout le temps lamentables au sujet de Léo, émises par la presse française à son sujet. C'est un très très beau bouquin que je vous recommande très très vivement. Je voulais adresser un grand message de soutien au personnel des EHPAD, des établissements pour personnes dépendantes, donc établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, qui sont en lutte depuis quelques temps, mais de manière plus précise, plus active, depuis hier. Ils étaient en rassemblement devant le ministère de la Santé, ils ont été reçus en délégation. Vous imaginez très bien je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais moi en tout cas, ce que je peux penser des délégations reçues par les ministères. D'ailleurs, ce que je peux penser des ministères tout court, on va rester poli pour l'instant parce qu'il est 16h, on est en plein après-midi, ça se trouve il y a des enfants qui écoutent, donc un petit peu de mesure ne sera pas de mal. Mais un grand message de soutien à toutes celles et à tous ceux qui se battent dans ces établissements où règne l'immonde programmé par l'État de manière très très précise, de manière très programmée, voilà, comme je disais il y a quelques instants. Un grand message de soutien à Christiane, de soutien non, mais amical, d'énormes bises amicales à mon ami Christiane, que je remercie très fort. Je remercie également Chris et Sylvie. Et j'embrasse Romaine également, que j'ai raté lundi soir. J'étais un peu malade ces derniers jours et voilà. Donc, leur adresser un grand merci pour les petits messages de soutien qu'ils ont pu adresser. On va retrouver effectivement Franz dans quelques instants. Je vous rappelle que dans l'émission précédente, il nous parlait de Marie Ferré, de l'accueil qu'elle lui fait à Castellina. Et on va donc continuer l'entretien sur cette partie-là. Mais juste avant, vous en avez peut-être entendu les quelques premières notes. Voici tout de suite une chanson.
Dans le ventre des Espagnols, il y a des armes toutes prêtes, et qui attendent. Des oiseaux finlandais vêtus de habanères, des vikings aux couteaux tranchant la manzanille, des flamèches de Suède brunes comme la cendre, des guitares désencordées et qui se pendent, des amants exilés dans les cloches qui sonnent, la mort qui se promène aux bras de Barcelone, des taureaux traversés qui traversent l'histoire, des soleils fatigués qui les regardent boire, un orient de misère à la rode engloutie, les parfums de l'islam crevant d'Andalousie,
des pavés de flamenco aux gestes anarchiques, les rythmes du jazz band pour les paralytiques, les tam-tams de l'Afrique à portée de guitare, de l'eau fraîche et de l'ombre à jurer pour y croire. Une rue de Madrid avec des fleurs fanées, un fusil de 36 qui revient si près. Il y a des armes toutes prêtes, et qui attendent. Et qui attendent un accord de guitare au moment où l'on passe. Un passeur langoureux avant le coup de grâce, la bouteille à la mer dans un drugstore indien, un habit de lumière dans l'ombre du chagrin, la fureur pensionnée qui se croit dans la rue, des chansons caraïbes qu'on a perdu de vue, des cigales fuyant le bruit des castagnettes, toutes les Amériques au fond d'une cassette, exécutées à l'aube avec la stéréo. Le silence permis au-delà de Franco, des ailes de moulin plantées sur les maisons, Don Quichotte qui passe à la télévision, une chaîne en couleur pour avaler tout ça, le sang avec la veine d'avoir la corrida, et 100 000 danseurs sur la place publique pour que Christophe Colomb découvre la musique. Il y a l'espoir qui se gonfle et qui gonfle et qui attend et qui attend. Manuel de Falla. Thank you.
Et donc le matériel que Marie te met entre les mains, finalement, c'est de l'or pour toi, quoi, quelque part.
Alors, c'est formidable, parce que c'est Léo qui fait le con dans une espèce dans une petite chapelle où il se fout des curés. C'est Léo qui est au piano, qui répète avec Marie-Cécile, qui vient apparemment d'apprendre à marcher. Et il fait attention tout en jouant au piano, qu'elle ne se cogne pas la tête contre le piano. Donc, il égrène l'arpège de la main gauche, de la main droite, il protège sa fille. C'est Léo qui est en train de cuisiner des pâtes. C'est les parents de Léo Ferré aussi. J'ai quand même eu ça, c'est formidable. Les parents de Léo Ferré qui rendent visite à Marie et Léo Ferré, mais parce qu'un enfant vient de naître. C'est tout ça. Et c'est aussi des extraits de Léo Ferré, Bobino 69, filmé par Maurice Fraud. Et donc, c'est des moments intenses. Et évidemment, chargé en émotions, je pense que même regarder Léo Ferré en train de dormir, même ça devait être émouvant, parce que il y a pas, et c'est pas de l'idolâtrie conne. Je pense que tout est unique chez cet homme-là, quoi. Il n'y a pas de raison que ses rêves ne le soient pas non plus. Et puis il y a cette confiance, c'est-à-dire qu'on se retrouve dépositaire d'un, faut pas exagérer, pas de la mémoire ni d'un cœur, ni du cœur de quelqu'un, mais on se retrouve dépositaire de morceaux de vie couché sur une bande magnétique qui fait de plus en plus la gueule. Moi, j'ai eu la chance de les sauvegarder jusqu'à la dernière, comme ça. Et puis, Marie et ses enfants qui vous disent « Bon, ben voilà, j'espère que ça te conviendra. Essaie de nous faire un beau film, quoi. » Et là, vous rentrez à Paris comme ça, là, vous n'êtes pas fier, quoi. Vous êtes la fierté elle-même, quoi. C'est formidable.
Oui, parce que là, c'est autant au journaliste qu'à l'amoureux de Léo.
Ah oui, il n'y a plus de journaliste, ça manque le journaliste. Moi, je rends la carte de presse. Non, non, il y a un type qui a un trésor. Je suis le Snowden, quoi, de Léo, quoi. J'ai des documents absolument incroyables et je vais essayer de les porter à la connaissance du plus grand nombre. Parce que j'ai été journaliste, reporter d'image à France 2, grand reporter, mais je n'étais pas du tout monteur, je ne savais pas spécialement parler. Et quand j'ai commencé à faire un peu l'état des lieux, savoir qui pourrait m'aider dans ce projet avec ces documents inédit, ben j'ai pas trouvé grand monde, quoi. Et donc je me suis dit, ben je vais apprendre le montage, je vais apprendre à écrire, je vais apprendre tout ça, et ce sera un film où je ne parlerai pas. C'est aussi l'un des grands défauts des journalistes, c'est de savoir toujours plus que l'artiste. Je ne parlerai pas, je laisserai les gens s'exprimer, les gens qui réellement ont connu Léo. Voilà. Et c'est-à-dire que le temps où je ne parle pas, ce sera du temps où Léo pourra lui le faire, pourra parler. Et donc voilà, j'ai réalisé ce premier documentaire. France 3, à un moment, ou France 2, je sais pas, France Télévisions. De toute façon, les deux valent rien. De toute façon, on l'a bien vu pour le 100e anniversaire, ils ne valent rien. S'est montré intéressé à un moment, donc j'ai été reçu dans un bureau où il y a une espèce de porc avec des bretelles, de porc à lunettes qui suintait comme un gigot à la broche, qui me dit « Ah bon, vous avez des documents sur Léo Ferré ?» Je lui dis « Oui, voilà, moi je souhaiterais rendre hommage à l'artiste, au musicien, au poète. » Et le mec m'a arrêté court, il m'a dit « Non, 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 tout ça, non, il faut faire Léo Ferré, mon père, cet anarchiste. » J'ai dit, oui, c'est un angle, mais c'était d'abord un artiste majeur. Non, 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 écoutez-moi. Je sentais que le type, je l'agaçais et c'était réciproque. Et il me dit, il faut faire Léo Ferré, mon père, cet anarchiste. J'ai fait la même chose avec Renault. On a fait 48% de part de marché. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et je lui dis, donc, il faut faire parler son fils et ses enfants sur leur père. Et je lui dis, ça rencontre deux problèmes. D'abord, c'est très intime. Je ne suis pas sûr qu'ils acceptent. Deux, je crois que Léo Ferré, de par sa vie de musicien, d'homme de route aussi, de concert, de gala, je crois qui ne connaissent pas aussi bien Léo que vous le souhaiteriez pour alimenter une émission. Il me dit, il faut faire Léo Ferré, mon père, cet anarchiste, c'est tout. Et je lui dis, c'est tout, puisque c'est tout, je me lève et je me suis tiré. Voilà. Et depuis, je n'ai plus jamais retravaillé en direct avec ce genre de guignol à bretelles et sans bretelles aussi, parce que c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on accroche une espèce de caricature, etc. J'ai eu le même problème, mais Jacques Chancel, disons les noms, les gens, ils se couvrent, ils m'en foutent. Bon, il serait vivant, je dirais aussi. Je rencontre Jacques Chancel. Parce que malgré tout, il avait fait au moins deux grands échiquiers avec Léo, qui sont des moments forts en télévision. Je le rencontre à Deauville, à l'hôtel Normandie, je crois. Bon. Parce que je faisais un truc sur le cinéma asiatique, absolument rien à voir, et je vois Chancel. J'avais une caméra, j'avais un micro, il n'y a pas de raison. J'intercepte Chancel, je lui dis « Ah, vous pourriez me donner une anecdote sur Léo Ferré ?» Alors, il me regarde comme ça, et puis il tire sur son cigare. À l'époque, on pouvait fumer à l'intérieur. Bon, et il me dit « Vous savez, c'est un ours qui vit avec un singe, et j'ai failli tomber à la renverse. » Je lui dis « Oui, d'accord, mais parlez-moi un peu du Grand Échiquier, comment ça se passait avec Yves Rigitlis, machin. » Il me dit « Léo me dit un jour, ouais, il faut que tu m'obtiennes, il faut que tu téléphones à Karajan pour que je puisse obtenir l'orchestre, le Philharmonique de Berlin. » Oh, moi, j'étais stupéfait par cette histoire. Et alors, j'ai appelé Herbert, Sick, et il me dit, non, c'est pas possible. Et Léo m'a dit, tu vois, t'es comme les autres, machin, etc. Bref, j'ai croisé l'anecdote avec Mathieu Ferré, fils de Léo. Ils me disent, tout ça, c'est n'importe quoi. Et je me suis rendu compte de ça très vite aussi. C'est-à-dire que les gens qui réellement avaient eu pas un impact, mais qui avait été un peu une petite caisse de résonance de son œuvre à un moment donné, se l'approprier, affabuler, raconter des trucs un peu n'importe comment. Bon, voilà. Enfin, tout ça pour dire que j'ai détruit la bande. C'était tellement con que j'ai pas pu le relire. C'était idiot. Voilà. Mais je crois que Léo a eu le courage. Il a eu les couilles d'être Léo Ferré. Voilà. Il s'est pas caché derrière. On a le droit et on peut aimer une période plutôt qu'une autre. Mais qualitativement parlant, artistiquement parlant, son œuvre est étincelante. On a des préférences, on a des goûts, on a des émotions qui nous portent d'un côté plutôt que d'un autre. Mais je crois qu'il n'a pas varié. C'est-à-dire que si on lui reprochait de faire des chansons de 12 ou 15 minutes, c'était tout simplement parce qu'il avait envie d'en faire une et non pas se conformer à un format de radio de 2:30 ou de 3 minutes. Il faisait ce qu'il voulait. Donc, il y a encore une fois une idée de liberté, une idée anarchiste, négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Et il ne cessera de le dire. D'ailleurs, souvent avec les journalistes, ils se mettaient un peu en pilote automatique. Je dois avoir des centaines d'heures comme ça, des émissions radio. Et il jaugeait un peu la qualité de son interlocuteur. Et après, il se mettait en pilote automatique. Alors, c'était anarchie, négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Il y avait l'anecdote des remparts à Monaco, où il était chef d'orchestre imaginaire, etc. Il se mettait un peu en pilote automatique. Il s'emmerdait pas. Et par contre, quand il devait juger que son contradicteur ou son interlocuteur était valable, là, il en trouvait un peu plus la porte, le grenier de sa mémoire, on va dire. Voilà, mais je ne sais plus quelle était la question parce que je m'égare.
C'est pas grave. Est-ce que tu l'as rencontré alors justement pour dans le cadre de ton travail journalistique ou est-ce que
Léo?
Oui, ou est-ce que c'était trop tard
Non, c'était trop tard. Hmm. C'était trop tard. Et c'est pas plus mal aussi. C'est pas plus mal. C'est-à-dire que moi, Léo, je le vois à travers les mots de Mathieu, à travers les mots de Manuela, de Marie-Cécile, de ses enfants, à travers la bienveillance de Marie, qui reste une personne extraordinaire et extraordinaire de douceur et de bienveillance. C'est un mot que j'aime bien, bienveillance. Il y a des mots comme ça qui ont disparu, c'est curieux. Hein. Fraternité, bienveillance, tout ça. Bon, moi, j'aime ces mots-là. Et donc, je le retrouve. Et puis, il y a surtout son œuvre. Non, je ne l'ai pas revu. J'en suis toujours étonné. Maintenant, j'ai 52 balais, mais je suis toujours étonné d'avoir eu l'audace à 17 ans d'aller voir ça. Quand même, je suis content de ça. Il y a des gens comme ça que l'on trouve. J'ai eu cette même impression de moments rares, solennels dans une vie. Avec Stéphane Hessel, avec Nelson Mandela, on se dit waouh quoi, le petit mec de peau, il était avec Nelson Mandela, il a passé la matinée avec Stéphane Hessel, c'est quand même extraordinaire quoi. Rien que pour ça, la carte de presse, ça vaut le coup de la faire briller parfois quoi. C'est quand même fantastique quoi, vraiment.
Pas dire, en fait, toi tu le dis, Michel. Ce qu'il ne faut pas faire, en fait, toi tu le fais, Michel. Chaque soir à campus, avec dans l'œil et dans l'oreille les chants perdus du bout de la terre et de Nanterre. Rappelle-toi. Là-bas, chez les hippies, j'y étais, moi aussi, comme ceux de Nanterre et de Campus Michel. Ce qu'il ne faut pas dire, en fait, toi tu l'as dit, Michel. Ce qu'il ne faut pas faire, en fait, toi tu l'as fait, Michel. Chaque soir à campus, après se met tout noir, avec dans l'œil les champs perdus du bout de la terre et du boulevard Saint-Michel. Michel, Rappelle-toi là-bas chez les hippies, nous y étions, nous aussi, comme ceux de Nanterre et de Campus Michel.
Libertaire.
Et donc ce premier documentaire est...
Et le premier documentaire, donc je le fais, donc je m'initie au montage, machin, etc., etc. Et je rencontre une femme qui est d'une intelligence et d'une générosité rare, qui s'appelle Marie-Christine Saragosse, qui était à ce moment-là la directrice générale de TV5, TV5 Monde. Et je lui fais part de Léo Ferré.
Et qui t'aborde pas de la même manière que le mec de France 2 qui te disait « Ah, il faut faire Léo ».
Non, du tout. Non, je lui en parle en termes... Alors, moi, je suis pas l'attaché de presse de Léo non plus. C'est-à-dire que quand j'en parle, moi, je suis toujours ému. C'est pour ça que je suis content d'être là. C'est pour partager un peu cette émotion-là. Mais elle m'écoute. Et elle avait des souvenirs estudiantins de Léo Ferré qui ravivaient apparemment certains souvenirs, certaines émotions. Donc, elle me dit « Écoute, oui, fais-le, on verra bien. » Fais-le, on verra toujours. Et bon, j'avais un mérite modéré, parce que moi, j'ai travaillé au premier, travaillé au huitième, donc j'ai pris l'ascenseur, finalement. Mais elle m'a dit, fais-le. Et quelqu'un qui vous dit, écoute, fais-le dans la forme que tu veux, vous vous donnez à 12 000%. C'est-à-dire que vous ne devez pas décevoir cette personne. Et j'ai fait un premier ours de montage. Ça lui a plu. Elle m'a dit, bon, il faut continuer, c'est bien. En plus, ça allait correspondre au 10e anniversaire de la mort de Léo. Donc, on est en 2003. Et là, on était donc en 2002, mais pour un anniversaire en 2003. Et le film s'est fait. Je l'ai monté comme je l'ai voulu. Voilà, je l'ai mixé comme je l'ai voulu. Ça, c'est quand même époustouflant de tranquillité. Et ça a été présenté à la SCAM. La directrice générale, Marie-Christine Saragosse, était à côté de moi. Et à la fin, elle pleurait. J'avais réussi à faire pleurer la directrice générale. Et elle était contente. Et tout le monde pleurait dans la salle. Et j'étais contente, ça. Pas de faire pleurer les gens, mais d'avoir ce moment de cette communion d'émotions. Et voilà, j'en profite pour la remercier, Marie-Christine Saragosse. Parce que vraiment, elle a été bien. Et plus tard, elle a été bien aussi avec un autre documentaire que j'ai fait sur Louis Joinet, sur la défense des droits de l'homme. Elle m'a dit, écoute, fais-le, on verra bien. Et à chaque fois, c'est passé... Non, ça c'est. Il y a des chouettes, il y a des gens vraiment. Ça... Autant il y a des gens, c'est des légions d'horreur, autant d'autres sont de vraies légions d'honneur. Quoi. Vraiment, c'est sympa.
Il y avait pour toi la satisfaction finalement que ton travail rencontrait entre guillemets son public, puisque cette personne était quand même avait la fibre Léo un peu en elle.
Oui, c'est vrai. Mais je crois de toute façon avec Léo, il ne peut pas y avoir de compromis. C'est-à-dire soit on aime et on aime vraiment, on n'aime pas par cœur, mais on aime par le cœur, soit on déteste. Voilà. Les gens qui commencent à faire la fine bouche, qui commencent à dénoncer le sourcil comme ça, la lip pendante et tout, bon, faut pas insister, quoi. Faut laisser faire, et c'est très bien, comme dirait Léo. Bon, non, je crois que Léo, pour quiconque a un cœur, un vrai cœur et pas un muscle qui bat, un vrai cœur, je pense qu'il a impacté des gens à un moment donné de leur vie, et cet impact-là est jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, le fait de rendre hommage à un homme ou à une femme qui vous a ému, on rend hommage à toutes les femmes et tous les hommes qu'on a croisés au cours de sa vie et qui vous ont ému. Je pense que les gens sont peut-être un peu touchés par ça, parce que, voilà, il y a un travail de mémoire. On parle d'un devoir de mémoire, mais aussi un devoir d'émotion, quoi. Et Léo, ce qu'il y a de formidable, c'est que vous allez chez n'importe quel disquaire, quoi qu'on ne trouve pas tout à fait tous les albums non plus, mais enfin, vous avez cette émotion-là, quoi. C'est quand même extraordinaire. C'est pas une béquille morale, c'est pas une béquille cardiaque, mais c'est un homme qui vous fait vous sentir homme et qui vous fait vous sentir femme aussi, peu importe, qui vous fait sentir être humain, quoi. C'est pas donné à tout le monde quand même.
Tu utilisais une expression lorsqu'on s'est rencontrés, tu me parlais d'une solitude généreuse. On retrouve un peu ça justement dans la générosité, dans ce que tu exprimes là à l'instant.
Oui,
quoi.
Parce qu'il n'y a pas de tabou chez Léo, qui chante Petite, qui chante les anarchistes, qui chante les ascenseurs camarades, qui chante ce qu'il veut. On a encore une fois cette résonance particulière et qui est aussi une solitude, qui est aussi une solitude. C'est difficile à communiquer l'émotion. un couple qui se marie, un couple qui vit ensemble, on les voit passer devant l'église ou devant la mairie, peu importe, ils ont l'air heureux, on les comprend, mais moi je parle de la personne qui est seule, quoi, qui est seule vraiment au cœur de la nuit, comme Higelin, tu diffuseras à un autre moment une interview que j'avais faite d'Higelin, il parle de ça. C'est difficile d'avoir une voix amie, une voix bienveillante. Je trouve que dans la vie, il y a peu de gens finalement qui vous veulent du bien. Il y a parfois vos parents, souvent, mais pas toujours. Il y a parfois des amis, il y a parfois votre compagne, mais quand on balaie un peu, quand on ratisse tous les gens qu'on est amené à rencontrer, il y a très peu de gens qui vous veulent du bien. Beaucoup ne vous veulent absolument rien, quoi. Et je pense que Léo nous veut du bien parce qu'encore une fois, par la force de son talent, par la puissance de son génie, il faut dire le mot, c'est génial, il vous aide à vivre. Je pense que c'est une vitamine à la vie et je pense même que son œuvre devrait être remboursée par la Sécurité sociale. On devrait pouvoir ramener le ticket de caisse de l'album acheté à la Fnac ou Virgin, ça n'existe plus, ça, enfin bref, et de dire voilà, j'ai acheté ça, depuis je vais mieux, et bien la Sécu vous rembourse le disque de Léo, quoi. Je pense que ce serait, ça vaut les antidépresseurs, ça vaut les Temesta, ça vaut les Tranxène, ça vaut les Prozac. Oui, oui, oui.
Donc ce documentaire, Les témoins de sa vie, ne sera pas le seul. Tu en feras un autre un peu plus tard, consacré à Léo.
Voilà. J'étais un peu... Alors, le premier, c'était Les témoins de sa vie, les gens qui l'ont connu, qui l'ont approché vraiment, qui n'ont pas applaudi à la première de l'Alhambra ou de Bobino.
Dans son intimité, quoi, vraiment.
Dans son intimité, dans sa vie d'artiste. Et encore une fois, toujours pareil, un peu excédé, parce que finalement, la colère, c'est vachement bien, ça vous porte un peu, ça vous évite de trop vous assoupir, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est Racine, quoi. Non, je n'ai pas bien dit tout ce qu'il lui faut dire. Et je me suis dit, tiens, j'ai quand même encore de la matière pour faire un autre documentaire. Ce n'est pas du pognon, parce que moi, je les vends une bouchée de pain, un documentaire. Ça rembourse à peine les frais, quoi. À peine les frais. Bon, donc, c'est pas, qu'on ne me dise pas de conneries maintenant, ce n'est pas vrai. Mais je me suis dit, tiens, je peux aussi faire autre chose et je vais raconter sa vie. Je vais raconter sa vie pour le 20e anniversaire de sa mort. Je m'étais servi de la biographie de Robert Bellerey, qui était parue chez Actes Sud en 94, assez vite après sa disparition. Et Robert Bellerey, que je connais bien, et qui a accepté donc de me dérouler les grands moments de sa vie, et que j'ai habillé avec des interventions de Léo. Voilà. Et ce même film, donc, qui est assez généreusement distribué, parce que moi, je le passe gratuitement pour les festivals, et je trouve que le film reçoit... un accueil plutôt bien, quoi.
Qui s'intitule La mémoire des étoiles.
Voilà, Léo Ferré, La mémoire des étoiles, hommage à cette fameuse chanson La mémoire et la mer. Et voilà, et c'est Léo, quoi. Et c'est Léo étincelant. Et puis ça m'a plu parce que le film a été diffusé à la SACEM en septembre dernier. Et il y avait toute la famille de Léo, il y avait les artistes de la SACEM, et il y avait aussi les petits-enfants de Léo, donc que Léo n'a pas connus. Et je crois, d'après ce que m'a dit Mathieu, qu'ils ont bien aimé l'image de leur grand-père, comme ça. En colère et tendre, quoi. Ça, c'est important.
On le voit, hein, on le voit. Alors, tu as dû utiliser pas mal d'images que Marie t'avait mises entre les mains.
Pas dans ce deuxième volet-là.
Dans le premier.
Dans le premier, oui. Non. Là, j'ai utilisé d'autres images qui viennent de Georges Bégout, qui était ami avec Léo Ferré, qui était journaliste à France 2. Des images qu'il a sauvées de la poubelle, d'ailleurs. Et voilà. Et on trouve parfois des pépites dans les poubelles, quoi. Et il me les a confiées. Et Georges est mort quelques années après. Mais là aussi, j'aime oublier ce geste-là. On retrouve aussi cette communauté parmi les gens qui aiment Léo. Il y a une générosité, il y a une gratuité. Aujourd'hui, on croit que parce que c'est gratuit, ça vaut rien. C'est pas vrai. La générosité, c'est gratuit et ça vaut de l'or. Et ça, je l'ai souvent remarqué. Chris et Sylvie du site SCL que tu évoquais en tout début d'émission, je les ai contactés une fois par Internet parce qu'un album n'avait été à ce moment-là pas réédité. C'était Seul en scène, 73, l'un des derniers concerts avec Paul Castagnier. Et est possible cet album-là, et je les ai contactés via un mail, et trois jours après, je recevais le CD, et je ne les connaissais pas, moi, ces filles-là, et depuis, autant te dire qu'on est restés inséparables, quoi. Mais voilà, j'aime cette idée de générosité. Je trouve que dans cette époque un peu frileuse, un peu plan d'épargne logement, un peu assurance vie, tout ça, je trouve que Léo n'est pas une valeur marchande, mais une formidable valeur cardiaque, quoi. Et les gens qui aiment vraiment Léo sont d'abord des gens généreux. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. L'ADN Léo, c'est l'ADN de la générosité d'abord.
Sur la scène, il y a le silence, tout habillé de noir. Sur la scène, il y a une pute avec des yeux abstraits. Sur la scène, il y a le vent qui me racontent des histoires. Sur la scène, il y a mon cœur qui est prêt à chavirer. Sur la scène, il y a ta voix qui me revient d'outre-mer. Sur la scène, il y a ton ventre et j'y meurs chaque soir. Sur la scène, il y a ton style et tes façons de le faire. Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire. Sur la scène, il y a mes clopes que t'allumes à ton slip. Sur la scène, il y a mes sous qu'on balance comme des cons. Sur la scène, il y a des voiles qu'on prendrait pour tes nippes. Sur la scène, il y a que dalle avec quelques chansons. Sur la scène, il y a la mer qu'on prendrait pour la grève. Sur la scène, il y a du faux qu'on prendrait pour de vrai. Sur la scène, il y a le soleil qui a le droit de grève. Sur la scène, y'a un mec qui sait pas maquiller. Sur la scène, y'a l'automne et du lin qu'on emporte. Sur la scène, y'a l'hiver et Molière qui fout le ton. Sur la scène, y'a le mois de mai qu'attend derrière la porte. Sur la scène, y'a l'été qui est mort, voilà 2 ans. Sur la scène, y'a l'Espagne qu'attend depuis 40 et qui se fabrique des mômes pour se sentir moins seul. Sur la scène, y'a Danton, le cœur sur la détente. Et à refoutre la merde avant qu'on ferme sa gueule. Sur la scène, y'a Karl Marx et Wall Street dans sa traîne. Sur la scène, y'a la bourse et l'âme des pauvres gens. Sur la scène, y'a la vie et l'espoir qui se traîne. Et la mélancolie qui a pas fait toutes ses dents. Sur la scène, y'a mon cœur qui bat ses camarades. Et ma môme en coulisses pour mieux se rappeler. Sur la scène, y'a le diable encore au hit parade. Et qui bat les Beatles de quelques variétés. Sur la scène, y a des mots qui ne demandent qu'à se placer. Sur la scène, y a des airs qu'on l'air de n'en pas avoir. Sur la scène, y a la guerre et des fois, y a la paix. Sur la scène, y a tout ça et y a même un nanar. Sur la scène, y a des gosses qui font le moine Marie et qui foutent des pavés dans le tronc des connards. Sur la scène, y a Jésus qui fume des marronniers. Qui se prend pour un beatnik avant de finir au quart. Sur la scène, y'a ma joie maquillée en musique. Sur la scène, y'a mon job qui a tout juste 20 ans. Sur la scène, y'a Paname et sa claque et sa clique. Sur la scène, y'a Popol qui me traîne depuis 12 ans. Sur la scène, y'a une ombre qui m'a fait des souvenirs. Sur la scène, y'a Pépé qui m'attend dans son trou. Sur la scène, y'a des mains qui battent des sourires. Dans la salle, il y a le public, c'est notre théâtre à nous.
Je pose une question traditionnellement pendant ces entretiens, parce que j'en ai réalisé quelques-uns déjà. Est-ce qu'il y a une partie de Léo qui te met un peu plus mal à l'aise, qui te dérange un peu plus,
Je sais pas s'il y a une partie qui me met mal à l'aise. Au niveau de l'œuvre, non. L'œuvre est instante. Il y a une chanson que j'aime pas trop, c'est Martha la mule. Bon, mais il y a une chanson sur une œuvre qui en compte plusieurs centaines.
Pour quelle raison ?
Je trouve ça faible. Non, je trouve ça faible. Voilà. Bon. Mais une chanson, c'est rien. Une chanson hein, sur 400 ou 500. Bon. Mais non, je sais pas. Je crois qu'il serait bien de. Enfin, en tout cas, c'est une ligne à laquelle moi je me suis conformé. C'est de rester sur l'artiste. Si on va chez l'homme, si on fouille un peu, si on met une espèce de torche, machin, etc., peut-être peut-on trouver des choses désagréables. Ça ne nous regarde pas. Mais vraiment, ce n'est pas le sketch des inconnus, ça ne nous regarde vraiment pas. C'est-à-dire que si on se mettait à fouiller auprès de ma famille, peut-être trouverait-on des choses aussi un peu désagréables. Je trouve que c'est un peu la pornographie de notre époque qui est de vouloir mettre en pleine lumière, et certains ouvrages, on faisait allusion tout à l'heure, je dis même pas le nom, parce que ça m'énerve, mais les gens savent de qui je parle.
Oui, on voit à peu près.
Je trouve que c'est une manière de lui faire du mal et de l'enterrer, et de lui faire du mal doublement parce qu'il est plus là pour répondre en plus. Donc voilà. Non,
c'est plus sur l'œuvre. C'est plus sur l'œuvre que je pensais. Mais
moi j'aime le Léo de la voix réellement affirmée. Enfin c'est pas une grande révélation. La voix véritablement affirmée, elle s'affirme vers 59-60 quand il signe chez Barclay. Et là, en termes de qualité, d'orchestration, de voix et tout, on a affaire à des diamants magnifiques. Et ça va continuer après. Il va gratter, il va fouiller, il va mettre un éclairage comme ça dans des coulisses, dans des trucs qui ne se faisaient pas, des trucs de 18-20 minutes. Il avait quasiment inventé le slam avec le chien et il va poursuivre un peu là-dedans. Ça, c'est tout à fait étonnant. Pour répondre à la question, la toute première partie de l'œuvre peut être, c'est-à-dire la période Odéon, les chants du monde, c'est pas au niveau de la musique, c'est pas au niveau du texte, tout ça c'est des diamants, c'est peut-être au niveau de l'interprétation de la voix. Preuve en est que quand il reprendra certaines de ses chansons, T'en as, voire même Paris Canaille, bien plus tard avec une voix plus affirmée, celles-ci auront un nouveau relief.
Notre amour aussi également, qui chantait déjà dans cette période-là et qui va reprendre... Qui va reprendre un peu plus tard sur l'album, pas La Frime, mais sur un album, Notre Amour, une chanson qui m'est chère. Voilà, c'est pour ça que je la cite. Donc tu disais effectivement qu'on peut avoir une affinité particulière avec certains pans de son œuvre, avec certaines périodes, certaines. Est-ce que toi tu en as une en particulier? Est-ce qu'il y a un moment qui t'est particulièrement cher?
Oui, une affinité comme les gens qui aiment Picasso préférant la période bleue à l'autre période, etc. Voilà. Moi, je suis un inconditionnel, quoi. Je suis vraiment mauvais, très mauvais pour ça, quoi. C'est-à-dire que tout me touche à des moments donnés, parce que ça évoque certaines choses précises à des moments de ma vie, etc. Tout me touche, y compris la première période. Tout à l'heure, je cassais un peu le truc. Mais c'était surtout l'interprétation, c'était surtout la voix. Non, moi, je prends tout. Voilà, je prends tout. Je prends tout. Je pense que l'œuvre de Léo, c'est un appartement. C'est-à-dire qu'on va dans le salon, on va dans le couloir, on va dans la chambre, on va dans la salle de bain. Il y a une petite toilette. Bon, voilà. Et je pense qu'il faut tout prendre. Il faut tout prendre parce que ces chansons, parfois, sont des segments très précis de sa vie. Très précis de sa vie. Enfin, on sait exactement ce qu'il fait, on sait exactement ce qu'il bouffe, quelles sont ses rêves à un moment, on sait exactement quelles sont ses cibles avec Barclay, etc., etc., dans les années 60, ses affinités qui éclatent au grand jour avec Verlaine, Rimbaud, etc. C'est quand même des albums sublimissimes. Bon. Et ça continue après sur des chemins plus tortueux, c'est vrai, mais qui restent pour moi d'une richesse folle. Quoi. C'est incroyablement audacieux. C'est incroyablement audacieux. Quoi.
À quoi tu penses quand tu parles de ces chemins tortueux?
L'imaginaire, le bateau ivre, les ascenseurs camarades en faisant l'amour, enfin...
La violence et l'ennui aussi, tu le places dedans?
Oui. Qui reste encore un peu dans un truc assez de 7-8 minutes. Moi, je pense à cet éclatement comme ça, à cet éclatement du verbe, à cet éclatement de musique avec des percussions où le choc du verbe rencontre les percussions de l'un et de l'autre, rencontre le pyjama d'une guitare, la caresse d'un violon. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire.
L'amour meurt.
L'amour meurt, formidable. Formidable, c'est des choses qu'on n'a pas entendues. Il faut accepter que nos oreilles soient parfois violentées. Voilà, Léo Ferré, quelqu'un qui violente les oreilles, et c'est pas mal aussi, parce qu'on ne peut pas toujours mettre du sucre et du miel dans le pavillon, quoi, parce qu'on va avoir des caries bientôt aux oreilles. Quoi. Et ils s'y entendent de l'autre côté pour nous le faire, ça. Il faut parfois accepter un petit coup de décapant. Quoi. Mais ça ne fait jamais mal, ça réveille. C'est quand même bien de voir aussi des choses et d'entendre des choses qu'on n'a jamais vues ni lues auparavant. C'est quand même étonnant. Pourquoi aujourd'hui on est moins étonné? C'est ça qui est curieux.
On a besoin du travail de l'immense provocateur dont il disait être, qu'il disait être.
Oui, mais aujourd'hui, c'est l'époque qui nous provoque. Enfin, j'ai une telle indigence culturelle de tous les côtés. Enfin, quels sont les films? Au bout de 10 minutes, on n'a pas envie de se lever pour bâiller. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Non. C'est aujourd'hui l'époque qui nous provoque. Les artistes, ils ne provoquent plus rien aujourd'hui. Et puis, ils provoquent quoi, des plans financiers, mais ils ne provoquent plus rien. Enfin, je ne vois pas un artiste aujourd'hui. Il ne faut pas comparer. Mais en termes de puissance, en termes d'impact, un artiste nouveau hein, sur le marché, puisqu'on appelle ça comme ça. Je ne vois pas un artiste qui ait cette force, cette vitalité, cette puissance qu'a pu avoir Léo. Peut-être existe-t-il, auquel cas il faudrait que les maisons éteignent leur MacBook Pro et descendent un peu dans les caves et voir un peu à droite à gauche. Quoi. C'est quand même ça aussi le rôle d'un directeur artistique, ça a été le rôle de Canetti à un moment, d'aller fouiller dans des caves, d'aller voir un peu quel serait ce type-là. Tiens, il s'appelle Brassens, il s'appelle Brel, il s'appelle Ferré, etc. Le journaliste du Monde qui écrit un premier papier en 1947 sur Léo Ferré parce qu'il est dans une cave à Saint-Germain-des-Prés, pourquoi ce type-là est descendu dans la cave pour aller écouter ce type qui s'appelle Léo Ferré? Et pourtant, il a su convaincre son rédacteur en chef de dire « Tiens, j'ai écouté un type, c'est plutôt pas mal, c'est assez nouveau. Il chante « Merci mon Dieu, mon général, etc. » Et il en a fait un papier. Il faut quand même en avoir un peu dans le pantalon. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans le pantalon. Quoi. Voilà. C'est des statues.
J'allais te poser cette question, mais tu y as répondu. Est-ce que tu penses qu'il y a aujourd'hui des immenses provocateurs? Non. Est-ce que l'époque seulement le permet, quoi? Est-ce que on est dans une époque où justement on a encore l'espace?
Oui, l'espace, on l'a. On l'a de manière formidable, sinon exagérée, via Internet, via les réseaux sociaux. Non, il y a quelque chose. Le problème, c'est pas de passer sur Radio Libertaire et d'évoquer Léo pour convaincre ou séduire un public qui, peu ou prou, est finalement assez acquis. C'est-à-dire, on sait que sur Radio Libertaire, on ne trouvera pas le même truc que sur Énergie. Ou alors, il faut être con. Bon, on le sait, tout ça. Non, je trouve que le problème est d'essayer de séduire ou de faire découvrir des choses nouvelles à ce qu'on appelait avant le grand public, quoi. Et ça, je trouve que c'est perte sèche, quoi. On ne peut pas y arriver parce que les grands décideurs, et on l'a vu pour le 100e anniversaire, remuent encore le couteau dans la plaie, mais on l'a vu, ils n'ont rien fait pour le 100e anniversaire. Ça, je pense que c'est difficile. Alors que les directeurs artistiques ne puissent pas aujourd'hui faire leur métier, je ne sais pas. Je pense que c'est notre époque manque de courage, tout simplement, manque d'audace, manque de curiosité. On dira jamais combien la curiosité, finalement, est le sucre de la vie.
Ces filles que l'on met sur des phonotocs, au lieu de les aimer ou de les foutre en cloque, c'est les piques et Victor Hugo, qui que c'est ça mon coco? Moi je connais que le batteur qui baratine ma sœur. Quand il fait son break, on dirait que tout s'arrête. C'est l'idole des bavoirs, à gugueux, à gaga. Tous ces transistors qui transitent ces pics sur Radio Andorre, paroles et musique, c'est l'époque épique. Ces boîtes à radio, à ragoût pour idiot, j'y mets qu'une pile et puis sa musique toute la nuit. What, Bella Bartok, moi je connais que le Volstock et la Valentina qu'a de l'orbite d'entre là, là. Ces garçons qui chantent des chansons idiotes qui te mettent sur la jante en roulant de la glotte, c'est les piques et pas. Apollinaire, c'est dit que c'est ta grand-mère. Moi je connais que la guitare électrique et je me marre. Quand Johnny la gratte, on est bien, on est bat. C'est l'idole des quinquins, on est bat, on est bien. Et cet Europe 1 et ce Luxembourg qui t'enveloppe les uns pendant que les autres claquent, c'est l'époque opaque. Lucien Maurice, c'est un très grand artiste. Et ce Philippe Aki, c'est un de mes amis. Salut les copains, vous entendrez demain de nouvelles salades. L'époque est bien malade. Salut.
Tu veux me dire quoi là?
Ferré
Club, la radio sur la radio libertaire. Voilà.
On a quasiment fini cet entretien. Je vais arriver à la question con parce que il y a toujours la question con. Oui, mais tu n'y échappes pas, France. Hein, ouais. Je suis désolé. lorsque tu te dis, tiens, là, c'est le moment où j'ai envie d'écouter Léo, est-ce qu'il y a une chanson en particulier, sur laquelle tu te jettes?
Juste une, c'est cruel. Juste une, c'est...
Alors, j'ai découpé en plusieurs thèmes. Une chanson d'amour, par exemple. Est-ce qu'il y a une chanson d'amour en particulier, parmi toutes les chansons d'amour que Léo a pu écrire? Est-ce qu'il y en a une qui te parle particulièrement plus que les autres?
Ton style, ça me bouleverse totalement. Ou La Fleur de l'âge, j'écoutais ça la dernière fois, j'ai sombré, pff, c'est terrible. Ton style, ça me transporte, ça me dévaste. Oui.
Est-ce qu'il y a une chanson sur Paris qui t'est particulièrement chère? C'est aussi un thème qui est très, très utilisé par Léo, Paris. Est-ce qu'il y en a une qui t'est plus chère que les autres?
Paname, c'est un verre de Bourgogne, c'est sympa. C'est pas un grand Bordeaux, mais Bourgogne, c'est parfois pas mal.
Et une chanson politique, est-ce que y en a une en particulier là? C'est pareil.
Alors tout de suite, on a envie de dire le conditionnel de variété, et puis la politique aussi, on peut l'écouter avec Petite. Le conditionnel de variété, oui, mais ça fait référence à un moment très particulier, une chanson politique, je parle et je réfléchis en même temps.
C'est la question con, hein. J'avais prévu, c'est la question con.
Words.
Ouais.
Words, oui, formidable, extraordinaire. C'est le simple fait d'en parler, je m'aperçois que je suis excité. Là, on va bientôt amener les barreaux et la camisole de force et tout, mais je trouve que c'est ça. C'est-à-dire que on dit oui, par exemple, j'aime bien telle chanson de Becco, machin, etc. J'adore Barbara. Ferré, il y a cette vitalité supplémentaire qui fait que cette énergie qui était autrefois transmise par le diamant, par le sillon du disque, continue aujourd'hui avec le rayon laser ou des fichiers compressés ou non de MP3. Et je trouve que c'est ça. C'est une vitamine à la vie, quoi, vraiment.
Et puis il y a un thème qui m'est moi particulièrement cher, c'est la nuit, qui est aussi quelque chose qui a beaucoup parlé à Léo. Il y a des tas de chansons magnifiques sur la nuit, même si elle est aussi la visiteuse de beaucoup d'autres chansons qui ne sont pas directement liées à la nuit. Mais est-ce qu'il y a...
L'Opéra du Pauvre, tout de suite. Là,
bien sûr,
tout de suite, tout de suite, tout de suite. Les trois disques, L'Opéra du Pauvre, La bien Dame sûr. Nuit, La Dame Ombre, etc. Non, formidable.
La cloîtrée qui est très chère à mon cœur.
Extraordinaire. C'est quand même génial, de vivre, deux, de se dire, tiens, aujourd'hui, ben, je me prépare à être bouleversé en écoutant cette chanson, ce passage-là. C'est ça la force de Léo, c'est qu'il vous fait vous sentir encore plus vivant. C'est formidable.
Ah oui, ça, comme tu dis, c'est absolument formidable. Et est-ce que, ça c'est, on va finir un petit peu là-dessus, il y a effectivement tous ces thèmes chez Léo, il y a l'anarchie dont il s'empare et qu'il proclame, mais comme on proclame tous et toutes nous autres anarchistes, est-ce qu'il t'a donné envie d'aller vers cette idée, cette formulation politique de désespoir, comme il disait? Est-ce que tu te sens anarchiste?
Je me sens à peu près libre, qui était aussi la définition que pouvait donner Léo. Il disait l'anarchie, c'est l'amour, c'est la liberté. Je me sens à peu près libre. Finalement, j'arrive à un moment où je me dis, je voulais faire des films sur Léo. Ben, je les ai faits. J'ai écrit un livre dernièrement sur Léo qui s'appelle Léo Ferré, Droit de réponse. Et ce livre, je l'ai écrit parce que je trouvais que Léo avait été maltraité par la presse au cours de sa carrière et je voulais un peu rétablir tout ça. Et voilà, je sais pas, je voulais des enfants, j'en ai, il m'aime, tout va bien. Non, je me sens plutôt libre et cette distinction entre le bonheur, entre le spleen, entre l'extra-bonheur, cette espèce de cœur qui bat la chamade, qui bat le tambour, comme dirait Léo. Et ça, je le dois à lui. C'est-à-dire que je n'ai pas honte d'être heureux, quoi. Je ne me gêne pas pour le dire et pour essayer de rendre aussi mon entourage, j'espère, à peu près heureux, quoi. Et ça, c'est quand même bien, quoi. C'est pas un code de la route, c'est pas un GPS, Léo. Mais c'est quelqu'un qui, à des moments donnés, peut-être pas toujours, mais à des moments donnés, peut vous aider à vous sentir encore plus vivant. Et c'est inestimable.
Voilà une jolie définition de l'anarchie que je n'aurais pas aussi bien formulée. Franz, je pense que nous arrivons gentiment à la fin de cet entretien.
C'est la fin.
Je voudrais te remercier très vivement d'avoir fait le détour jusqu'au studio de Radio Libertaire.
Merci à toi, merci à Radio Libertaire, surtout.
Te remercier également pour le travail que tu fais, parce que c'est vrai que avant de te connaître, j'ai croisé tes œuvres, ton travail, et qui m'ont aussi beaucoup, comment dire, qui m'ont percuté, quoi.
Oui.
Non, mais je te le dis honnêtement, en tout particulièrement ce passage où Jacques Higelin nous parle de Ebasta, nous parle de lui face à Ebasta, etc. C'est pour moi quelque chose qui est très important. Donc je te remercie aussi pour ça. Mais avant toute chose, te dire que tu es le bienvenu dans le cadre de cette émission. Tu reviens quand tu veux et c'était un grand plaisir de passer ce moment avec toi.
Merci.
Je vais te proposer une dernière chose. C'est la chanson qui va suivre cet entretien, de la choisir. Est-ce que tu as une envie en particulier ?
La fleur de l'âge.
Merci Franz, à très bientôt.
Ben voilà, c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. On a parlé encore une heure là. Hein. Ah oui, putain.
La fleur de l'âge, c'est une idée dans ton corsage, une idée longue d'une nuit. C'est l'olivier dans ton abîme, quand tes fruits lourds. Mais non, et que mon bec te lime la fin de l'âge. Les coquelicots, c'est mes copains, alors tu me donnes tes coquelicots, et tes pensées, c'est mon destin, alors tu penses et tout va bien, la fleur des champs se donne des airs, alors tu prends la clé des champs pour t'en aller dans le désert de cet amour qui va trembler. Les mots d'amour, c'est comme les fleurs, ça ne s'épelle qu'une fois. Je t'aime ici, je t'aime ailleurs, je vous aime tout à la fois. Dans ton jardin, j'ai tout cueilli, ne reste rien pour nous deux qu'un peu du soleil de ta vie. Un peu de neige à mes cheveux, la fleur de l'âge. C'est une source qui se page et que je vais tarir aussi. C'est des ciseaux dans tes nocturnes quand leur lame te brise en mille éclats de brume la fleur de l'âge. Les belles de nuit dorment le jour et toi tu es belle comme la nuit et ta violette c'est l'amour, moi qui te viole à la folie, cette folie qui dure un temps comme le temps des immortels dans l'éternité de l'instant qui te prolonge et qui m'appelle. Les mots d'amour, c'est comme les fleurs, ça ne se cueille qu'une fois. Je t'aime un peu de tout mon cœur et je m'effeuille entre tes doigts dans mon jardin. Tout est coupé, il ne reste rien pour demain qu'un peu de ma joie en aller dans ta bruyère de satin, la fleur de l'âge. C'est l'avenir qui meurt à l'aube quand tu oublies que je t'oublie. C'est un éclair dans ta corolle, dans le plein de la nuit, lorsque tu me raccordes comme un soleil.
grand merci à Franz Vaillant. Salut à toi Franz, merci encore de ta visite. Je vous retrouve quant à moi dimanche pour Il y a de la fumée dans le poste, lundi pour la nuit noire et bien évidemment mercredi prochain pour le Ferry Club. Prenez soin de vous, prenez soin d'elle. Ciao.